Bonjour les merveilles, je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui dans le numéro 12 du podcast Un instant une vie, je reçois Sylvie Tinceau qui partage son parcours atypique d'auteur photographe. Sylvie est passée par des doutes, une prise de conscience de ses capacités et grâce au regard et à l'amour de son entourage, s'est enfin donné l'autorisation d'incarner l'artiste qu'elle est, Syl Boeck. Aujourd'hui, Sylvie est reconnue comme auteur photographe, en plus de son activité de graphiste et de facilitatrice de projets. Elle chemine un jour à la fois pour créer sa vie. Vous pouvez la trouver sur le site sylboeck.com et sylboeck-auteurphotographe.com. Si vous aussi, vous vous êtes trouvé confronté aux doutes sur vos capacités, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Sylvie Tinceau. Bienvenue Sylvie, je suis super contente de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui.
Merci beaucoup Joëlle.
Sylvie Tinceau, écoute, je propose que tu te présentes. Qui es-tu aujourd'hui ?
Je suis Sylvie, j'ai toujours été Sylvie d'ailleurs. qui je suis aujourd'hui, entrepreneuse individuelle depuis une bonne dizaine d'années, maman d'un garçon qui a maintenant 18 ans, mariée, et puis je dirais que même après, on va dire, 40 ans, on continue quand même à évoluer avec le temps, donc en effet, qui je suis aujourd'hui ne sera pas qui je suis demain, ni qui j'étais hier, il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps, tout à fait.
Et qui tu es se manifeste comment dans ta vie ?
Dans ma façon de faire les choses, ouais. Dans ma façon d'être aussi, ce qui est logique. Au niveau professionnel, je suis toujours, on va dire, assez attentive. Je suis derrière mes clients, à l'écoute. Je fais ce dont ils ont besoin et pas ce que j'ai envie de faire, ce qui est complètement différent.
Je confirme, c'est vrai.
Et puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que voilà, ma façon de fonctionner, elle est super importante pour moi. Je suis vraiment à l'écoute des autres. Je donne beaucoup, parfois peut-être trop, mais bon, ça c'est voilà, un côté, on va dire, un peu altruiste, des fois bénévole. Ça m'est arrivé de travailler bénévolement pour des personnes. Donc enfin, bon, après ça, c'est un choix. Au niveau personnel, en tant que maman, on va dire, ou femme, je pense que les deux vont avec. Il y a eu beaucoup de parcours entre guillemets psychologiques parce que j'ai vu pas mal de psychologues, des choses comme ça, pour essayer de me comprendre. Et à partir du moment où je me suis comprise et j'ai compris mes valeurs et ma façon de fonctionner, c'était beaucoup plus facile de mettre des choses en place en tant que maman ou en tant que femme pour arriver à jauger mon intervention en fonction de où, quand, comment, et ma place. Ce n'est pas toujours évident de trouver sa propre place quand on est dans une famille qui a été un peu éclatée à droite et à gauche à la base. Donc voilà, c'est beaucoup de lectures de bouquins de développement personnel. D'ailleurs, aujourd'hui, un peu comme mon fils qui n'a pourtant que 18 ans, j'en ai ras-le-bol d'en lire parce qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes choses. Et en fin de compte, on pioche les idées dont on a besoin en fonction de ses propres valeurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand les gens vous disent « bah tiens, tu pourrais faire comme ça, comme ça, comme ça », il y a toujours le « bah oui, je sais, mais ça, c'est une méthode qui ne fonctionne pas avec moi. Bah, oui, je sais, mais ça ne marche pas.
» Voilà. En tout cas, pas au moment où tu...
Voilà, pas au moment où on en a besoin. Donc, c'est vrai que c'est toujours une fois de temps en temps. Je pense à Eckhart Tolle, à plein d'auteurs comme ça sur le développement personnel qui m'ont aidé à me comprendre, à comprendre aussi. Il y a un bouquin que j'ai tout petit qui s'appelle « Apprivoiser sa part sombre », qui aussi permet de comprendre que, OK, on a des défauts. Il faut savoir s'en servir quand il faut. Mais pas tout le temps tirer trop sur la corde et puis surtout accepter ce côté-là. Donc, côté peut-être un peu trop, comment on peut dire, des fois, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, un peu trop avenante, un peu trop vouloir faire les choses à la place des autres. un peu trop à mettre son grain de sel là où il faut pas, un peu trop aidante dans le sens où il faut laisser faire les autres. Voilà, il faut arriver à trouver, à ajuster tout ça, une espèce d'équilibre. Et je pense qu'avec le temps, il faut savoir les utiliser au fur et à mesure, savoir exactement quand les placer. Mais tout est question d'équilibre. Ça, je pense que c'est assez important pour moi. Donc, pas
Et
toujours
cet équilibre, tu
facile,
le trouves
mais.
aussi avec ta vie d'artiste, je suppose?
Oui, c'est vrai. Alors, ma vie. Oui, la vie d'artiste, c'est la photographie. À la base, je devais être scientifique, mais ça n'a pas marché. Ensuite, je suis passée en comptabilité parce que c'était plus facile à l'époque. Donc, j'étais partie pour un BTS compta et puis au final, ça ne me plaisait pas. Et je suis partie dans le marketing, donc tout ce qui est communication, mot qui n'était absolument pas dans le vocabulaire de mes parents. Donc, c'était très, très drôle de voir comment la vie vous emmène sur un terrain qui n'était pas le vôtre au départ. Donc, je suis complètement sortie de ma zone de confort pendant mes études en allant en communication marketing. Donc, comment faire les choses jolies, ce que j'aime beaucoup dans la photographie. C'est ce que je fais. Un de mes métiers, c'est la photographie et l'autre, c'est webmaster, graphiste. Donc, voilà, c'est d'aider les gens à mieux se présenter, à être plus professionnels, à avoir une image d'eux, on va dire, vue de l'extérieur qui est propre. Moi, c'est ce que j'appelle avoir une cohérence graphique, une cohérence dans le discours, etc. C'est comme ça que je les accompagne. Et au niveau de la photographie, j'ai décidé il y a quelques années de ça, bon, ça ne fait pas encore tout à fait 10 ans, mais pas loin, d'utiliser la photographie en tant qu'art. Et du coup, je livre mes pensées sur mes photos. Ça veut dire que je prends des photographies. Alors que ce soit pour moi ou à titre professionnel, peu importe, mais j'utilise ma base de données photographique, beaucoup de macros, de la matière, des petites choses qui se touchent, des choses qu'on ressent. Et ensuite, je les imprime et j'écris dessus au fil de mes pensées. Donc c'est vraiment thérapeutique. Ça me permet de me vider la tête et de faire exactement ce que je fais là, c'est-à-dire de discuter avec moi-même, là pour le coup. De me poser des questions et de dire, OK, j'en suis où aujourd'hui, qui je suis, comment je vais aller, dans quel sens, pourquoi j'ai ce problème-là en ce moment. Et du coup, je m'auto-analyse, je me fais l'avocat du diable. J'aime beaucoup dire des choses que je ne pense pas pour essayer de comprendre pourquoi je pense comme ça. Donc, en fait,
D'accord.
c'est ça. Je me pose une question, je réponds à un truc qui est peut-être dans mon état d'esprit, je réponds carrément le contraire en disant, mais oui, mais pourquoi est-ce que ce serait pas ça? Et j'essaie de faire un mélange de tout ça en trouvant ce qui me convient, moi, entre les deux. Donc, c'est vraiment ce que j'écris dessus. Donc, c'est vraiment au fil de ma pensée, c'est intellectualisé ou sentimentalisé, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et j'en ressors une phrase comme un adage, comme un proverbe que j'invente en fonction du moment ou que je reprends si ça colle à mon sujet. Donc généralement, sur une photo, j'écris ce que je pense au moment où je le pense et sur un sujet très précis et j'en retire quelque chose. Voilà, donc ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 3 jours, advienne que pourra. Donc voilà, côté artistique, en plus de mon travail de photographe et de webmaster et de graphiste.
En fait, lorsque tu fais ça, si j'ai bien compris, tu rentres dans une discussion philosophique, émotionnelle, existentielle avec toi-même et avec
Complètement,
le monde.
complètement, complètement. Oui, complètement. J'aime beaucoup aller, alors pas tout le temps, hein, que ce soit, bon, au niveau professionnel, dans certains domaines précis, j'aime bien aller dans le côté expertise, donc de faire vraiment des formations récurrentes, de se tenir au courant, de savoir de quoi je parle, de me former pour pas rester, on va dire, à la rue. Donc, c'est vraiment une évolution. Et au niveau personnel, c'est le même principe. C'est qu'à partir du moment où je pense quelque chose à un moment donné, est-ce que ça va durer tout le temps? Est-ce que ça va être efficace tout le temps? Et voilà, c'est des fois des moments comme ça où quand on écrit, quand on dit les choses, pour moi, ça rentre de façon un peu différente dans la tête. C'est une cristallisation des pensées et de, OK, allez, on va vraiment poser ça sur la table, on va aller vraiment tout au bout et puis d'essayer de trouver une réponse à peu près satisfaisante au moment où on la découvre, on va dire. Sachant que peut-être que dans 3 ans, ce ne sera pas du tout la même chose.
Ouais, c'est ça, c'est
Voilà.
exactement ce que j'étais en train de penser. Je me disais,
Ouais.
en t'écoutant, c'est vraiment, j'entends le processus dans lequel tu es, qui est de, en même temps, avoir une vraie réflexion sur l'état et le moment dans, le, où, dans lequel tu es, et l'accueil complet que c'est un état qui change et que c'est une photographie à un moment
oui,
donné.
Oui, exactement, c'est le principe, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ce qui fait que, en dehors du fait que j'utilise parfois les mêmes photos, je n'écris jamais la même chose dessus, jamais sur le même sujet. Et des fois, je me contrains à des sujets extrêmement précis, comme je l'ai fait pour les contes, le conte du petit chaperon rouge, en découpant le conte en petits morceaux. Et je ne suis pas Bruno Bettelheim, loin de moi cette idée, mais je me suis inspirée de ce que j'avais appris dans son bouquin sur les contes pour essayer de couper le conte du petit chaperon rouge version gentille. Hein. Voilà, j'ai pris la version des Five Kings qui est une fin heureuse. Et du coup, j'ai découpé ça en 20 petits morceaux et avec 20 photographies de macro à fond vert, avec une graphiste, j'ai travaillé sur des dessins du petit chaperon très graphique. Et après, j'ai livré mes pensées sur le petit morceau de l'histoire. Donc, j'ai vraiment pris 20 petites phrases de l'histoire en disant, OK, alors là, c'est le début, la grand-mère, elle offre un cadeau à sa petite fille. Ah, OK, un cadeau. C'est quoi un cadeau? Pourquoi ce cadeau? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi la couleur rouge? Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné au final? Parce qu'en fait, au final, quand elle va sortir, on va la remarquer. Est-ce que c'est en relation avec les règles, etc.? Ce que pouvaient dire certains psychologues dans les bouquins. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas forcément tordu, mais c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la pensée pour essayer d'en tirer quelque chose, quoi. J'aime bien faire ça. Je trouve ça, on va dire, oui, mais c'est ça, c'est thérapeutique. Et en ce moment, avec le confinement, comme il n'y a pas d'expo, j'ai pas lieu d'imprimer des photos. Donc du coup, je n'écris pas beaucoup et ça commence à se sentir fortement parce qu'en fait, tous les jours, je rêve et tous les jours, c'est complètement différent et c'est complètement hallucinant. Et ça, je sais que là, pour l'instant, ça veut dire que là où ça travaille, mais je ne le pose pas. Enfin, c'est comme un artiste qui ne peint pas, au bout d'un moment, c'est frustrant. Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc, les explorations, tu le fais en général dans un objectif d'exposition.
Souvent.
Souvent.
Mais quand voilà, quand ça arrive hein, que dans l'année, j'ai enfin avant le confinement, j'avais quand même pas mal d'expositions à l'année. Donc du coup, je ressortais des anciennes photographies écrites, ou sinon j'en créais de nouvelles en fonction de mon humeur et en fonction de la personne avec qui j'exposais, parce que je suis pas forcément toute seule. Ou des fois il y a des thématiques et du coup quand il y a une thématique j'aime bien me coller une limite parce que sinon j'imprime un peu ce que je veux et... enfin comme j'aime bien le côté cohérent, j'essaye toujours de construire une histoire autour des photos et ensuite j'écris ce que je veux sur chacune des photos donc voilà c'est... mais voilà c'est vrai que quand je n'ai pas d'exposition et du coup je n'ai pas la contrainte de faire une exposition, c'est vrai que d'imprimer pour imprimer, pour construire quelque chose. Mais je pense que, on va dire, cette période de confinement et de non-exposition, c'est surtout comme ça qu'il faudrait le dire pour un artiste, permet de comprendre que, OK, si on veut continuer à travailler son côté artistique, il ne faut pas s'arrêter. En dehors du fait qu'on a peut-être un autre boulot à côté et qu'il faut le faire, je pense qu'il faut quand même que je me dise, OK, je vais m'inventer une exposition future et du coup, c'est moi qui vais imposer les choses plutôt que l'inverse. Donc, ça me permettra aussi de pouvoir me vider l'esprit. J'étais en train de me dire, là, ces temps-ci, il faudrait peut-être que je sorte quelque chose. Ça ne ferait pas de mal.
Cette vie d'artiste, elle s'est présentée comment dans ta vie? À quel moment?
Alors, je pense que toute petite, déjà, j'avais des appareils photo, mais je n'ai pas vraiment beaucoup... Enfin, ce n'était pas mon idée de départ d'être photographe. Loin de moi, c'était. Par contre, artiste, ça me plaisait. Dans le sens où, comme il n'y avait pas de communication réelle, d'échange dans ma famille étant petite, je pense que le côté artistique était important pour pouvoir justement faire sortir de soi ce dont on n'avait pas besoin. Après, chaque artiste pense peut-être différemment, mais moi, je mets sur mes photographies ce que je n'ai pas besoin de garder à l'intérieur de moi, ou en tout cas ce que j'ai besoin de comprendre, on va dire ça comme ça. Ça me permet de m'obliger à me poser et de réfléchir. Et je me suis rendu compte, alors en 2007, j'ai fait du dessin Parce que pour apprendre, enfin, je sais un petit peu dessiner, reproduire des modèles, mais dessiner par moi-même des petites choses, voilà, c'est pas mon métier et je ne le travaille pas pour faire de l'illustration. Mais je me suis rendu compte que comme je ne voulais pas peindre ou remplir avec des crayons de couleur ou des pinceaux ou du feutre mes dessins, et ben j'écrivais à l'intérieur. Donc j'ai des dessins qui datent de 13 ans maintenant, où je commençais déjà à écrire dedans ce qui me passait par la tête, ce que je ne pouvais confier à personne à l'époque. Et parce que, voilà, pour X raisons, c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé ensuite à voir des psys pour arriver un peu à comprendre la chose. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, mais pourquoi je n'écrirais pas sur des photographies que moi je fais, plutôt que de dessiner un modèle qu'on me donne ou des choses comme ça, parce qu'au final, c'est déjà la photo, c'est une vision personnelle, et ensuite réécrire encore quelque chose dessus. Donc, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre parce que je m'auto-arrêtais, je sais pas comment on peut dire ça, de le faire en me disant, mais non, si j'écris dessus, je vais gâcher ma photo, alors que je pensais que ma photo n'était pas suffisante en elle-même et qu'il fallait que je rajoute un truc. Donc voilà, c'était le moment de passer le pas. Et à partir du moment où j'ai passé le pas, c'est un peu comme mon nom d'artiste, Sylvie Boëck, où c'est la contraction de Sylvie et la contraction de Boëck, qui est le nom de famille d'un ami qui, quand j'étais en école de commerce, m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne continues pas à faire de la photo. Bêtement. Parce qu'il savait que j'aimais ça, il savait que j'en prenais beaucoup, il aimait bien ma façon de prendre des photos. Et à l'époque, mon mari me disait, mais tu n'as pas besoin de prendre des photos, tes souvenirs sont dans ta tête. C'est vrai. Néanmoins, voilà. Donc du coup, c'est une espèce de petite dédicace à lui en disant, OK, je pense que ce coup de pied-là, à ce moment-là, a été quand même sacrément significatif. Donc du coup, j'ai pris ce nom d'artiste un petit peu tordu. Et écrire sur les photographies, ça a été la même chose. J'ai une amie qui est aussi photographe qui m'a dit, mais ton idée est géniale, vas-y, j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la photo, donc imprime une photo, écris dessus. Et bah, quand on entend ce genre de choses, on se retrouve un petit peu confond en disant, bah oui, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Bah oui, mais pourquoi? Parce que j'ai la trouille. Bah oui, mais pourquoi? Bah, en fait, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a aucune raison. Donc j'ai imprimé une photo, j'ai écrit dessus. Donc c'était tout timide au départ avec un petit stylo, machin, etc. Et maintenant j'ai une palette entière de toutes les couleurs de Posca, j'écris de toutes les couleurs sur les photos. Ça ne me dérange pas de gâcher une photo et puis tant pis. Voilà, parce qu'en fait, quand j'écris sur le tirage, et quand c'est écrit, je ne peux rien faire d'autre. Si c'est raté, entre guillemets, c'est raté. Donc
Et c'est quoi
c'est.
rater en plus?
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est. C'est pas grave, c'est un peu frustrant des fois, mais c'est pas très très gênant. J'ai pas énormément de ratés parce que je suis beaucoup dans la réflexion en amont. C'est-à-dire que même si j'ai une expo dans 2 jours, je suis capable de produire en 2 jours ce que j'aurais dû produire en 6 mois en prenant plus de temps. Mais parce que y a tout, enfin, je suis toujours en train de réfléchir en me disant, ah bah tiens, ça pourrait faire un sujet photo, tiens. Ça. Donc j'ai déjà plein de sujets dans la tête et souvent c'est parce que je ne le fais pas ou que je n'imprime pas les photos que ça traîne. On va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment entre le côté artistique avec le coup de pied au cul et le côté écrire sur la photo avec le coup de pied au cul, c'est ce genre de petites choses-là qui font que j'ai avancé. Voilà.
Ouais, t'as dit quelque chose à ce propos-là aussi que j'ai entendu, il me semble, c'est cette validation. C'est quelque chose que j'entends assez régulièrement avec les femmes qui partagent et cet espace où on ne se donne pas le droit,
Oui,
bon,
c'est ça.
de faire quelque chose, il faut une
Complètement.
validation extérieure pour arriver à créer tout ce qui est là, tout est là et voilà, j'ai entendu ça.
Ouais, et en fait, ça m'est plusieurs fois venu à l'esprit de me dire, mais pourquoi j'attends une validation extérieure de quelque chose que je sais qui va être bon pour moi et que j'ai envie de faire? Et pourquoi on a besoin d'une validation extérieure?
Et
Est-ce
alors?
que, je dirais que ça, c'est un bon sujet de discussion. Je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé de réponse, mais je comprends ce besoin de le faire dans le sens où je l'entends moi aussi très bien chez les gens, puisque je suis capable de faire exactement la même chose pour moi. C'est que je pense qu'on a besoin d'être rassuré sur le chemin qu'on prend. Mais au final, est-ce que quand on est rassuré sur le chemin qu'on va prendre, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on ne va pas se retourner contre quelqu'un d'autre en lui disant c'est ta faute si ça ne fonctionne pas? Et du coup, c'est une non-prise de responsabilité de le faire soi-même et de ne pas laisser quelqu'un décider à sa place ou donner un coup de pied au cul. Donc je suis là, je dirais que je suis dans le flou en disant est-ce que on va coller ça sur... Alors je dis pas que je vais le faire moi, mais est-ce que c'est pas en dehors de la peur et en dehors d'être rassuré ou d'être validé par quelqu'un, est-ce que c'est pas donner à l'autre la responsabilité de nous dire ok, tu peux y aller.
Ouais.
Et pas prendre cette responsabilité nous-mêmes. Je peux pas te dire, je sais pas. Je trouve ça super intéressant comme sujet et je pense qu'on pourra en discuter des heures. Et je pense que c'est pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais après, à partir du moment où ça a été validé, entre guillemets, par l'extérieur, je pense que valider est peut-être pas forcément un bon mot. C'est un peu comme un tampon sur un devis en disant qu'après tu dois le faire. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est une validation, on va dire, morale. Mais à partir du moment où c'est validé, quand on décide en tant que femme, pour toutes les autres personnes que tu as interrogées et dont tu as senti aussi cette validation de l'extérieur, je pense qu'à partir du moment où c'est validé, on est rassuré, on le fait. Et à partir du... Plus, quelques temps plus tard, si on considère que c'est bon pour nous, on va continuer. Et par contre, de revenir en arrière, je pense que c'est pas possible. Limite, la personne qui a validé l'information ou qui a pris la responsabilité de la valider, on va dire non, 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 ça y est, moi j'ai pris ma décision, c'est ok, c'est nickel, c'était exactement ce qu'il me fallait, j'avais juste besoin d'un petit coup de pied aux fesses.
Oui, c'est ça, c'est le regard extérieur qui vient dire la reconnaissance peut-être. Je ne sais pas quel mot utiliser, effectivement.
Oui, reconnaissance aussi, c'est pas mal. Je pense que, oui, mais le problème de la reconnaissance, c'est que ça vient bien après. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui reconnaissante aux gens qui m'ont donné un coup de pied aux fesses. Néanmoins, je suis aussi reconnaissante parce que j'ai réussi à le faire. Je l'ai montré au public en faisant des expos. C'est de la même chose pour mon travail professionnel. Et que derrière, les gens me remercient en me disant « c'est bien ». Mais tu vois, la reconnaissance, on ne l'a pas forcément tout de suite au final. On l'a bien après. Bien après avoir réalisé le truc.
C'est drôle parce que là, toi, tu as entendu reconnaissance, gratitude.
Ah, ok.
Alors que moi, c'est rigolo. Alors que moi, j'ai pensé reconnaissance, le fait de se reconnaître soi.
Ah, d'accord, ok.
Comme étant capable ou la reconnaissance de quelqu'un qui dit « Ah, mais je vois, je vois ta capacité, ton talent. »
Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est toujours c'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler même sur la définition d'un mot parce que parfois on l'utilise pas de façon correcte. Donc reconnaissance, voilà, je l'ai pris dans l'autre sens derrière. Pour moi, la reconnaissance vient après, alors que au final, non, c'est en premier plan.
Bah, les deux peut-être.
Bon sujet de discussion, voilà exactement.
En quoi? Dans tout ce que tu as pu vivre en tant que femme et maman, artiste, professionnelle, qu'est-ce qui a pour toi été le... Je vais utiliser le terme cadeau, mais ce n'est pas forcément le cadeau. Le défi qui a amené le plus de cadeaux ou le cadeau qui a amené le plus de défis. Le moment qui peut-être a pu te permettre de transformer quelque chose fondamentalement dans ta vie. Est-ce que tu as eu ça?
En fait, souvent on me pose la question, je ne pense pas que j'ai eu ce genre de cassure très très nette qui me font dire que j'ai eu à un moment un basculement en me disant il faut changer tout, il faut aller de l'avant. Je pense que ça vient, enfin c'est un peu comme une pente qu'on monte tout doucement.
Mmh.
Quand on fait du vélo, qu'on pédale, au milieu, on est crevé, et puis arrivé au bout, c'est « ouh, on a réussi ». Donc, c'est plus crescendo comme ça, sans forcément de feu d'artifice. Je ne m'attends plus à des feux d'artifice. Après, on a tous des grands moments de fierté, mais de ce qu'on a fait, de ce qu'on voit de l'extérieur, de notre famille, etc. À part, comme peut-être je te disais, c'est de temps en temps des 2-3 coups de pied au cul, ou de temps en temps des choses que j'entends, que je vois, que je sens qui ont changé à l'extérieur. J'ai pas de gros événements comme ça qui font que. C'est plein de petites choses qui sont rajoutées les unes aux autres et je pense que ça dépend beaucoup de soi-même. C'est-à-dire que son positionnement, ça, on va dire droiture physique, je sais pas forcément le mot, mais son alignement, ses prises de décision, ses... Les actions qu'on fait ont toujours un impact sur ce qui se passe à l'extérieur. Toujours. Ça s'est passé ce matin. J'étais pas sûre de pouvoir faire le truc avec toi.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin?
Mon fils avait très très mal à la tête. Il était, il a eu un bac blanc de français hier. Il a un bac écrit. Il a le bac blanc d'oral demain. Mais il vient seulement de me dire. Donc, il stresse un petit peu, ce que je ne savais pas. Il n'a jamais vraiment passé d'examen à part son brevet. Donc, comme il a 18 ans, ça évolue. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'évolution de son côté par rapport au fait que moi, de toute façon, ça fait un bout de temps que je me suis radoucie, que je gère les choses un peu différemment. Bêtement, hein, un adolescent, on le brosse dans le sens du poil pour avoir ce qu'on veut, hein, mais on est là quand il a besoin. Et je suis en conflit, on va dire, régulier avec mon mari parce que lui, il fait « Non, non, s'il n'est pas mort par terre en saignant, ben, il y va, quoi. » Grosso modo, je lui ai collé un doliprane, je lui ai dit ben, « Tu dors une heure et puis tu essayes d'aller encore à 9h. » Sauf qu'à 9h, il n'y a pas été. Et au bout d'un moment, j'étais fâchée, donc je me suis isolée. Hein, pof, le casque sur les oreilles, la musique à fond. Et j'étais en colère, je ne dis plus rien, je ne parle plus à personne. Et du coup, bon, bah, son père est parti l'engueuler. Le môme a complètement affalé, machin. Il a pris ses clics, ses claques, il est parti à l'école. Donc, si l'école appelle aujourd'hui, je tendrai le téléphone à mon mari en disant « Tu gères, parce qu'aujourd'hui, je suis fâchée, c'est toi qui te débrouilles, parce qu'on n'est pas d'accord. » Voilà. Mais par contre, derrière, il n'y a pas de réelle relation, mais pour moi, il y en a. C'est un petit événement qui a fait que mon mari, vu la gueule que je faisais, vu comme ça, a pris le téléphone et a appelé l'hôpital pour dire « Ok, je suis d'accord pour mon opération des yeux. » Et ça fait 2 ans que ça traîne.
Je suis d'accord pour ?
Mon opération des yeux.
Ah !
Ça fait 2 ans que ça traîne et ça fait 5, 6, 10 personnes qui consultent pour être peut-être rassurées parce que lui ne veut pas qu'on touche à ses yeux. Et du coup, ce matin, après ce coup de colère de ma part, ou en tout cas de ça, ça a déclenché autre chose ailleurs sur un autre plan.
Ouais.
Donc en fait, la façon dont tu te comportes toi et la façon dont tu fais les choses ont forcément un impact sur les autres, mais pas forcément celui dont toi tu as besoin, mais celui dont les autres ont besoin.
Ouais. En fait, c'est pour ça que je parlais de tous les liens invisibles.
Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément un truc à un moment donné ou 2 trucs, etc. C'est plein de petites choses qui font que voilà, ça fait comme une toile d'araignée et il y a plein de choses qui transversales, qui se recroisent, etc. Et voilà, je dirais que c'est plus comme ça. Je ne ressens pas voilà, de feu d'artifice à certains moments donnés. C'est plus toutes plein de petites choses, que ce soit au quotidien ou sur des années. Quoi.
Ouais, ce que j'entends, c'est cette capacité que tu as de faire le lien entre justement toutes les choses qui peuvent t'arriver dans ta vie pour en faire du sens, comme ce que tu fais sur
exactement, ouais, tout à fait.
C'est un chouette don, ça.
Je m'en étais pas rendu compte. mais ouais, après c'est peut-être trop intellectualiser les choses, mais je trouve ça rigolo de se dire ok, il y a voilà 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un et puis aujourd'hui avec cette personne j'en suis là et ça m'a apporté ça et elle est super contente parce que ça lui a apporté ça. Donc on se dit que finalement voilà, c'est tout plein de petits bouts, ça donne des relations, ça croise des choses. Je trouve ça toujours super intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue, c'est par rapport à Malika. Donc tu vois, il y a c'est ce genre de petites choses. Ouais, j'aime bien.
Ouais, je trouve ça intéressant. Si quand je regarde ma vie, je vois les fils. C'est un peu comme si je regarde en arrière ou en avant, dans les deux sens, ça marche évidemment. Je peux voir, voilà, j'ai rencontré telle personne qui m'a permis de connaître telle chose ou de faire telle activité ou de prendre tel cours, ou j'ai rencontré telle personne. Et d'ailleurs, ça me donne la chair de poule parce que c'est parfois, mes parents pouvaient me dire « ça n'a aucun sens ce que tu fais ». Tu vas n'importe où, tu fais n'importe quoi. Et moi, je sais que non. Moi, je sais que c'était pas n'importe quoi, que c'était que le chemin, il n'était pas tout droit.
Complètement.
Mais le chemin de vie, enfin, il y a peut-être des gens qui ont un chemin tout droit. J'aimerais bien les rencontrer parce que
moi,
j'en ai pas. Mais je connais pas beaucoup qui ont un chemin tout droit. Mais en tout cas, le mien, il est pas tout droit.
Je pense que personne n'a un chemin tout droit, mais c'est chaque personne a une vision peut-être différente sur son propre chemin.
Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que par contre, il n'est pas tout droit, mais il revient toujours. C'est-à-dire que
Exactement.
la direction,
Reste grandement la même.
elle est cohérente.
Tout à fait,
Donc,
oui.
parfois, je fais un petit détour qui dure plus ou moins longtemps, mais je reviens toujours sur ce chemin de ma vie qui fait du sens pour moi et tout ce que je fais à côté, tout ce que je découvre à côté, a toujours enrichi et m'a amené plus de compétences, plus de capacités et plus de liens avec moi-même, plus de liens avec les autres. Voilà, donc c'est vrai que
Sans
c'est chouette.
oublier, après je sais pas si ce que j'entends, sans oublier le côté aussi négatif de certaines rencontres qui génèrent aussi un repositionnement de ce qu'on veut faire et qui génèrent aussi des réflexions sur soi en se disant, OK, si j'ai rencontré cette personne-là à ce moment-là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et du coup, tu vois, ça redresse un peu la barre. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais il faut le sentir, le comprendre et savoir rebondir parce qu'après, on peut carrément changer de chemin et partir en vrille. Mais bon, voilà.
Ah ouais.
Donc, c'est voilà, c'est les rencontres positives ou des rencontres négatives qui font que je pense à une personne en particulier qui est une cliente et qui est devenue une amie. Une rencontre extrêmement positive entre nous deux. Maintenant, on travaille ensemble, on est complètement à l'opposé au niveau de l'organisation du travail. J'ai une façon très, très carrée de travailler. Elle est commerciale, elle part dans tous les sens, etc. Et elle avait une gestionnaire qui l'aidait à gérer ses comptes, etc. Et j'ai rencontré cette gestionnaire. Tu vois, tu sens le personnage qui est très fort de caractère, qui se met vachement en avant. Donc, à une certaine époque, je l'aurais admiré et mis sur un piédestal. Aujourd'hui, je suis hyper méfiante. Je fais attention à mes propres sentiments en me disant, OK, c'est quelqu'un qui envoie voilà, qui envoie une certaine énergie positive, mais je sentais le truc. Alors, ce que je fais généralement dans ce cas-là, c'est que je vais aller travailler avec cette personne-là pour savoir si elle est dans mes valeurs et dans ces cas-là, continuer une collaboration. Sa gestionnaire, quand j'ai voulu bosser avec elle, eh ben, en fait, il n'y avait plus personne. Je dis, ben, oui, mais attends, c'est joli, les belles paroles, mais il faut peut-être agir. Donc, du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en posant des questions, en demandant des informations, ben, qu'elle avait roulé dans la farine ma cliente et amie que j'ai aujourd'hui. Et en fait, ce n'était pas une rencontre positive. Alors, au final, pour moi, c'était ni positif ni négatif. Pour elle, ça a été une prise de conscience du mauvais chemin qu'elle prenait en fonction de son entourage et elle a redressé la barre. Et bon, en même temps, il y a eu plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est l'influence que j'ai eue là, je suis pas forcément fière de moi. Parce que j'ai mis quand même le doigt dans l'engrenage, tu vois. C'est comme si tu arrivais quelque part et puis tu colles ton doigt dedans pour tout arrêter, tout bloquer et dire aux gens, allez, regardez, mettez un peu de l'ordre dans vos trucs là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu vois, c'est aussi ce côté, des fois, je me dis, OK, quand tu interviens, je ne l'ai pas fait pour moi, en fait. Je ne l'ai même pas fait pour moi, au final. Je l'ai fait pour la personne que je voyais qui était potentiellement en détresse. Bon, après, je l'ai pas identifié comme ça au départ, mais voilà, il y a eu plein de cheminements qui font qu'aujourd'hui, cette gestionnaire a mis la clé sous la porte. Et donc, du coup, j'aide ma cliente et amie à redresser un petit peu la barre pour éviter de, entre guillemets, se faire avoir parce qu'elle donne une confiance et elle est hyper généreuse et elle fait confiance très, très facilement. Et des fois, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc, après, c'est ce travail, je lui impose pas forcément de faire ce travail-là, mais c'est vrai que je suis pas tendre des fois quand je lui dis les choses en disant, écoute, là, tu fais peut-être une bêtise, quoi. Donc, tu vois, j'aime bien aussi m'amuser à essayer par rapport à mon cheminement à moi, d'essayer de voir si je peux aider les autres à trouver un cheminement qui soit plus en accord avec eux. Parce que si tu vois quelqu'un qui est toujours malheureux et mal à l'aise, tu dis qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans leur choix et d'essayer de leur faire retrouver cette petite barre et puis cet équilibre. Donc c'est voilà, c'est pas toujours des rencontres super positives, c'est pas toujours des rencontres négatives, et des fois c'est voilà, mettre un peu son grain de sel là où personne n'en a besoin, mais je sais pas, enfin
Parce que j'entends dans ce que tu partages là, c'est peut-être ce qui vient avec ton métier qui me ramène à ton métier de photographe, de voir les choses peut-être sous des angles différents, dans cette capacité que tu as de regarder les différents angles pour trouver la photo qui te convient, et que lorsque justement tu vois dans ton entourage une situation, tu as cette capacité du coup de prendre les différents angles et dire, ah, ok, quand je regarde par cet angle-là, c'est super beau, mais en fait, si je regarde par derrière, oh là, c'est comme la robe coincée dans la culotte, quoi. Tu vois,
En fait, c'est ça, c'est des trucs un peu planqués, cachés. Et c'est vrai que on parlait de dons tout à l'heure. Après, je ne sais pas si c'en est un ou pas, ou c'est quelque chose que j'ai développé par rapport à ma personnalité. Mais à partir du moment où je sens qu'il y a un problème ou un souci, je vais aller jusqu'au bout du truc pour le régler, quoi. Donc, et puis c'est comme des défis, en fait. C'est comme des défis à relever. Je trouve que entre la reconnaissance du défi et la gratitude que tu récupères derrière, pour utiliser tes mots, c'est moi je trouve ça super super intéressant. C'est pour ça que je dis voilà, il n'y a pas de grande cassure. C'est j'ai trouvé un petit machin, il y a un petit caillou dans la chaussure à un moment donné. On va essayer de trouver des solutions, on va essayer de trouver une autre façon et encore une autre façon et encore une autre façon jusqu'à retirer le caillou de la chaussure, que ce soit moi, que ce soit mon entourage, des choses comme ça. Après, tu tombes sur des têtes de mule qui ne t'écoutent jamais et dans ce cas-là, bah, tu laisses tomber.
Après, ça appartient à chacun.
Exactement.
Tu choisis de partager la photo
Oui,
et
oui.
après, l'autre choisit de la regarder ou pas,
L'accepter ou
quoi.
pas. Tout à fait, tout à fait. Oui.
Il y a quelque chose que tu as dit plus tôt aussi, que j'aimerais bien avoir ta vision dessus, c'est chemin des situations qui peuvent être négatives. Mais est-ce que une situation est négative ou est-ce que c'est simplement le regard qu'on porte dessus qui est négatif ou positif ou qui apprend quelque chose?
On est d'accord, c'est le regard qu'on porte dessus et c'est aussi, oui, d'une situation dont on va apprendre quelque chose pour peu qu'on ait envie d'apprendre quelque chose de cette situation. Je pars du principe que, alors, quand je dis négatif, c'est dans le sens où c'est un problème, c'est le caillou dans la chaussure et ça va poser un problème si c'est pas résolu. C'est ça qu'on va dire que j'appelle négatif. C'est pas négatif dans le sens noir-noir. Néanmoins, même si c'est entre guillemets négatif au départ, j'essaye toujours, comme tu disais, de regarder derrière pour savoir si la robe n'est pas coincée dans la culotte et du coup de faire juste toc et puis de régler le souci entre guillemets négatif. Après, il y a négatif, après, il y a plutôt néfaste. Il y a des personnes ou des situations qui sont extrêmement néfastes et parfois ça vaut le
Toxique.
coup de carrément s'en séparer.
Ouais.
De ne pas intervenir, de ne rien faire, de ne rien dire. Et parfois, on peut même vous reprocher de ne rien faire. Mais que si c'est néfaste pour soi, parce que ça va nous emmener sur un truc qu'on ne peut pas gérer émotionnellement ou autrement, voilà. Négatif, c'est pas, on va dire, constructive. Des situations qui sortent de ta zone de confort, où on n'est pas forcément très à l'aise, mais qui risquent d'être constructives si on essaye de travailler dessus, de faire quelque chose. Par contre, si ça devient néfaste, ben là, on arrête, quoi. Je pense que c'est
C'est
un peu
plus
ça.
ça pour toi. Ok, super. Super. Bah, écoute, merci d'avoir partagé cette vision du monde avec nous. Tu es allé chercher des compétences dans plein d'endroits différents. Tu les as assemblées pour en faire une œuvre qui est tienne. Aujourd'hui, tu continues de créer au jour le jour dans ton métier, dans ta vie de famille, dans ta vie de femmes avec toutes ces compétences, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit cadeau de revoir, comme information aux femmes qui t'écoutent pour justement arriver à être dans cette alchimie?
C'est super, c'est super personnel dans le sens où c'est très difficile d'apporter un conseil qui ne conviendra pas à tout le monde. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter et savoir ce dont on a besoin avant tout, écouter ses émotions et savoir les mettre en avant. Pour moi, être positif, c'est super important. Parce que même si on reçoit un mail qui nous fout dans une ruine pas possible, il faut tout de suite mode OK. Comment je vais gérer le truc, comment je peux rester positive et comment je vais résoudre la situation et pas pourquoi ça m'arrive. C'est comment. Comment avancer, pas pourquoi, comment. Le pourquoi, au fait, au final, on s'en fout puisqu'il y a eu un tas de trucs avant qui se sont construits. Donc, c'est comment avancer. C'est vraiment la question la plus importante. Ne jamais lâcher le morceau, sauf en cas de trucs néfastes, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vachement important d'aller jusqu'au bout des choses et de, comment on peut dire, pas forcément de ne pas remettre au lendemain, mais de prendre à bras le corps le truc qui nous gêne le plus pour justement avancer, parce que c'est hyper constructeur au niveau de la personnalité. Et ça nous permet de dire après ok, ça, je veux plus, ou ça, je veux. Mais ça reste un travail de longue haleine sur toute une vie. Hein. Je suis très dans. J'adore piocher à droite et à gauche, écouter beaucoup, entendre. Je sais pas, c'est difficile de résumer ça. Est-ce que j'ai pas une phrase magique qui va sortir là? Attends. En fait, c'est ça, c'est des kiffs, des petits kiffs au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Relativiser en permanence, savoir qu'on est quand même riche, entre guillemets, pas financièrement, mais de tout ce qui nous entoure. On a une maison, on a une famille, c'est relativiser, positiver, comment résoudre les choses et pas toujours chercher pourquoi. Parce que le pourquoi, il est un peu freinant des fois. Et savoir écouter son intuition, s'écouter soi, et à partir du moment où on a compris qui on est, je dirais que le reste, il va tout seul. Il y a plein de choses qui s'améliorent autour de soi.
Donc en gros, écoute-toi et avance.
Oui, c'est ça. Et après, comme tu disais tout à l'heure, la personne qui est en face de toi quand tu veux l'aider, si elle n'a pas à ce moment-là besoin ou envie de t'écouter, il faut savoir aussi lâcher le morceau. Quoi.
C'est clair, chacun.
Pas insister parce que du coup, après, on se met dans des situations un peu d'émotions personnelles qui sont dures à gérer.
Merci Sylvie de ce partage.
Merci beaucoup Joël, à toi.
Je te remercie infiniment. Toute personne qui veut te joindre peut te joindre comment?
En retenant Sylboec, Sylboec, me trouveront forcément quelque part sur Internet.
Sylboec, allez chercher voilà, Sylboec et ça. Vous trouverez Sylvie.
J'ai mon site web avec ce que je fais comme travail, j'ai mon site artistique, j'ai toutes mes expos, je suis à droite et à gauche sur plein d'autres sites, donc voilà. Et bon, après, avec Sylvie Tinceau, je crois que j'ai une homonyme quelque part, mais bon, après, je ne peux pas te dire ce qu'elle fait. Sylboec, mon nom d'artiste qui est un petit peu pas toujours facile.
C'est la clé,
prononcer.
En fait.
Voilà, c'est ça, c'est la petite clé. Oui, tout à fait.
Donc, retenez bien la clé. Et puis, ouais. Et puis à bientôt.
Merci beaucoup, Joël. Au plaisir.
Au revoir.
Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie.